Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ces lieux des rencontres du légendaire où nous avons déjà vécu des moments inoubliables. Et là, nous avons un invité de marque, de choix, Monsieur Michel Pastoureau. Alors, vous êtes une sommité en ce qui concerne la symbolique, la héraldique. Donc les blasons. Alors, Monsieur Pastoureau était absolument fasciné tout à l'heure dans la grande galerie, puisque bien sûr il y avait des blasons à décrypter, des insignes aussi d'ordre de chevalerie. Et donc vous êtes aussi bien sûr le grand spécialiste des couleurs, leur signification, leur histoire. Moi j'étais ébloui par votre conférence sur le bleu à Chartres. Et notamment, ce qui m'a particulièrement frappé, et je trouve que c'est tout à fait en correspondance avec ce que nous échangeons ici, c'est qu'il y a eu des progrès humains, notamment cette technique de la fabrication du bleu, qui n'est pas issue finalement du secteur commerçant, commercial, mais vous l'avez dit vous-même, c'est une volonté symbolique, spirituelle qui a précédé à cette innovation technologique, c'est-à-dire le souhait que le bleu prédomine. Finalement, c'est même dans la théologie de la lumière qui était en faveur à l'époque de l'abbé Sugère, si j'ai bien compris. Et alors, aujourd'hui, vous allez nous parler de l'ours, qui est un animal qui fut autrefois le roi de la forêt ici, qui a été détrôné ensuite par le lion comme roi des animaux. Alors, il a un rapport, bien entendu, très important avec le monde du légendaire, parce qu'il y a un conte merveilleux, très très célèbre en France, qui fait partie des grands contes types, qui s'appelle Jean de l'ours, qui était particulièrement prisé dans le sud de la France. Et il y a aussi, bien sûr, la racine art, ars, commune à la fois aux Celtes et aux Grecs, me semble-t-il, qui veut dire l'ours et qui est à l'origine du nom, sans doute, du roi Arthur. Voilà, donc j'ai assez dit de bêtises et je vais vous laisser la parole.
Merci. Bonjour à tous. Donc oui, je ne mets pas ma casquette d'historien des couleurs, mais celle d'historien des animaux, pour vous parler de l'histoire culturelle de l'ours européen. J'ai rencontré l'ours assez tôt en faisant ma thèse consacrée aux bestiaires médiévales. Je me suis aperçu que pendant une période assez longue du Moyen-Âge, l'ours était le roi des animaux, et puis qu'il y avait un moment dans le courant du XIIe siècle, où il cessait de l'être et où le lion prenait sa place. Ce dossier m'a un peu intrigué et j'ai cherché à en savoir plus, donc j'ai débordé en amont et en aval du Moyen-Âge, et puis j'ai fait quelques comparaisons avec d'autres sociétés, notamment sur, pour répondre à cette question, quel est le roi des animaux dans les différentes cultures. Rapidement, d'ailleurs, je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas beaucoup. En Europe, donc, ça a d'abord été l'ours, puis le lion. En Afrique, c'est tantôt le lion, tantôt l'éléphant. En Asie, c'est tantôt le lion, tantôt l'éléphant. Et en Amérique, aussi bien au nord qu'au sud, c'est l'aigle. Ça fait quatre rois des animaux, c'est vraiment pas beaucoup à l'échelle de la planète. Quelquefois, le rhinocéros peut être associé en Asie ou en Afrique, dans ce rôle, et dans quelques régions d'Asie, le tigre peut aussi être pris pour roi des animaux. Mais l'essentiel, c'est ours, lion, aigle, éléphant. Et donc, on peut essayer de réfléchir pourquoi ces quatre-là et pas d'autres. Et longtemps, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'ils avaient de particulier. Et puis, finalement, j'ai compris. Ce sont quatre animaux qui sont invincibles. Aucun autre animal ne peut vaincre ni un ours, ni un lion, ni un éléphant, ni un aigle. Les Romains, d'ailleurs, s'étaient déjà posé la question pour l'ours et le lion dans les jeux du cirque qu'ils ont fait à plusieurs reprises. On a trois ou quatre témoignages. Combattre un ours contre un lion pour voir quel était le plus fort. et le résultat a donné ce qu'on appellerait nous aujourd'hui match nul. Voilà. Donc, sur les terroirs européens, le lion, aux époques historiques, n'est pas indigène, mais l'ours, lui, c'est le plus fort de tous les animaux sauvages présents en Europe. Et ça explique sans doute pourquoi, aux époques historiques, il est devenu le roi des animaux. Mais il l'a peut-être été déjà antérieurement. Donc, il m'a fallu enquêter du côté de la préhistoire. Moi qui ne suis pas préhistorien, j'ai dû lire beaucoup de travaux de mes collègues préhistoriens. Je me suis d'ailleurs aperçu que chez les préhistoriens, les choses sont toujours assez sensibles et que les conflits d'écoles, de personnes sont beaucoup plus violents que chez les historiens, et notamment à propos de l'ours. Est-ce qu'il y a eu au Paléolithique culte ou non de l'ours, l'ours brun ou l'ours des cavernes qui vivent simultanément? L'ours des cavernes disparaît un peu avant le néolithique, mais l'ours brun, lui, existe encore, heureusement. Et cette question, culte ou non de l'ours, très précoce, chez l'homme de Néandertal, puis chez l'homme de Cro-Magnon, les positions des grands maîtres de la discipline préhistoire, des mandarins, ont changé plusieurs fois. Alors leurs disciples ont changé plusieurs fois d'opinion, c'est assez intéressant à voir du point de vue historiographique. L'immense André Leroy-Gourhan lui-même a changé 4 fois d'opinion. Oui, culte de l'ours, non, pas culte de l'ours. Oui, culte de l'ours, non, pas culte de l'ours. Et il y a encore des débats, et des débats assez agressifs, avec des positions très tranchées qui ont des conséquences sur les carrières universitaires. Les comptes rendus d'ouvrages peuvent être très laudatifs ou très, très, très méchants. Donc, des choses auxquelles l'historien que je suis n'est pas habitué. Cela dit, quand on regarde les choses d'un peu près, on s'aperçoit que l'ours au Paléolithique n'est pas un animal comme les autres. D'abord, il est le seul à fréquenter les cavernes avec l'être humain, probablement pas au même moment, mais enfin, ils sont dans les mêmes lieux. Et dans ces cavernes, on trouve des témoignages qui sont assez étonnants. L'ours n'est pas la vedette du bestiaire peint dans les grottes européennes. Le cheval, le bison, le mammouth sont plus fréquents que lui. Mais quand il est peint, dessiné ou gravé, c'est toujours dans des endroits très, très particuliers, en général au fond des grottes, associé avec d'autres témoignages qui laissent entendre qu'il y a en fait des pratiques de type cultuel. C'est le cas dans la fameuse grotte Chauvet, où il y a une salle de l'ours qui est tout au fond, dite salle du crâne, au milieu de cet espace, sur une sorte de piton rocheux au milieu de la pièce. Il y a un crâne d'ours, et au sol, on a trouvé en demi-cercle 12 autres crânes d'ours bien disposés, impliquant des pratiques, peut-être pas religieuses, le mot est trop fort, mais en tout cas cultuelles, pour honorer l'ours au fond de cette caverne, avec en plus des traces de présence de l'ours sous forme de griffures ou de reliques d'une autre nature, comme dans d'autres grottes un peu partout en Europe, mais aussi dans tout l'hémisphère nord, où l'on trouve un très très grand nombre d'ossements ursins, parfois dans des grottes où l'homme n'a jamais pénétré, et ces ossements sont disposés d'une manière telle que ça n'est pas accidentel, il y a eu des dispositifs. Et si l'homme n'est pas présent dans ces cavernes, ce sont les ours eux-mêmes qui ont arrangé les ossements de leurs morts. Ça a donné l'idée à quelques anthropologues, notamment soviétiques, mais aussi américains, que les ours avaient peut-être le culte de leurs morts et que ce sont eux qui ont donner aux humains le modèle de ce que nous appelons ensuite la religion. une affaire qui a fait grand bruit, mais on a trouvé en effet dans des grottes de Sibérie nord-orientale, là où l'homme n'est pas présent avant des dates relativement récentes, des traces manifestes de culte de l'ours, d'où l'hypothèse, ce sont les ours eux-mêmes qui rendent hommage à leurs ours morts. Et puis, plus à l'ouest, en Europe, on a trouvé d'autres témoignages étonnants, par exemple, près de Lascaux, à Régourdou, une tombe commune pour un homme et pour un ours, vers 80 000 ans avant le temps présent. Plus bas, dans le temps, près des Pyrénées, une statue d'ours, peut-être la plus ancienne statue connue, dans la grotte de Montespan. Il lui manque la tête, mais on voit bien que c'est une statue d'ours qui devait servir à des rites liés à la chasse. On a trouvé également, ici ou là, des témoignages qui laissent entendre que des témoignages gravés ou peints d'images d'ours qui ne sont pas associés à d'autres animaux ou aux mêmes endroits, qui laissent entendre qu'il y avait des espaces réservés pour rendre hommage à l'ours au paléolithique. Alors, des débats, des problèmes de datation, des problèmes pour savoir si ces grottes n'ont pas été visitées et réorganisées aux époques historiques. Je suis incompétent pour trancher. Mais quand je regarde plus en aval, du côté de la haute antiquité et des mythologies, mythologie gréco-romaine, mythologie slave, mythologie celte, mythologie germano-scandinave, on voit bien que l'ours n'est pas du tout un animal comme les autres. Il est associé à de très nombreuses histoires, un peu toujours autour des mêmes thèmes, et associé à de nombreuses divinités. On admire sa force. On pratique, comme chez les Germains et les Scandinaves, des rites de passage où, pour que le jeune guerrier passe à l'âge adulte, il doit affronter un ou plusieurs ours. Ou bien on observe que des guerriers, très tôt, aussi bien dans la Grèce archaïque que dans l'Allemagne et la Scandinavie de haute antiquité, païenne bien sûr, les guerriers, avant de partir au combat, se déguisent en ours, mangent de la chair de l'ours, boivent du sang d'ours pour acquérir sa force, bien sûr. Et puis, on raconte, et c'est arrivé jusqu'à des textes écrits, jusqu'à nous, pas mal d'histoires qui tournent autour de thèmes qui sont toujours les mêmes, la métamorphose d'être humain en ours, ou bien la métamorphose d'ours, mâle et femelle, en être humain. Deuxième thème, un humain, en général masculin, élevé par une ours, qui la nourrit de son lait, ce qui fait que cet humain devient plus ou moins ours par nature. Donc un thème lié au précédent. Et troisième thème, lié à l'idée que l'ours mâle est attiré par les jeunes filles et les jeunes femmes, les enlève, les viole, et ça donne naissance à des enfants qui, quand ils sont mâles, sont fils d'ours et guerriers invincibles, chefs de guerre, fondateurs de dynasties. On a à foison des histoires de ce genre. Dans la mythologie grecque, par exemple, l'ours, qui est associé à plusieurs divinités, mais spécialement à Artémis, la sœur d'Apollon, la déesse de la lune, de la forêt, des bêtes sauvages, qui est sûrement la divinité la plus riche du panthéon grec. Le personnage qui incarne le mieux les thèmes que je viens d'évoquer, c'est Paris, le Troyen, celui qui a enlevé la belle Hélène et qui a causé la guerre de Troie. Paris, quand il est né, fils de Priam, et d'Hécube, sa mère Hécube a vu en rêve une immense torche qui allait brûler la ville de Troie, et elle a compris que la naissance de cet enfant est une catastrophe pour Troie, et elle a demandé à un serviteur d'aller dans la forêt et de tuer l'enfant, le jeune Paris. Et le serviteur a bien emmené l'enfant sur le mont Ida, mais il n'a pas eu le courage de le tuer, il l'a abandonné, et c'est une ours qu'il a recueilli, et comme pour la Louve romaine de Romulus et Rémus, a nourri le jeune Paris de son lait, l'a élevé avec quelques oursons. Et donc Paris, il est à moitié ours par nature. Puis devenu grand, un magnifique jeune homme, c'est à lui que s'adressent les déesses pour le fameux jugement de Paris, qu'elle est la plus belle avec l'histoire de la pomme. Mais surtout, c'est lui qui enlève la plus belle femme du monde, une grecque, Hélène, et il provoque en effet la guerre entre les Grecs et les Troyens et la ruine de Troie. Et pourquoi est-ce qu'il enlève Hélène ? Parce qu'il est à moitié ours, et comme tous les ours, il est attiré par les jolies femmes, les jolies jeunes filles. Il les enlève, là, il ne la viole pas, mais l'histoire est structurellement exactement la même que d'autres histoires plus anciennes ou plus récentes. Donc, dans les mythologies, l'ours est un animal vedette dans tout l'hémisphère nord, un animal vénéré, un animal sacré dans des cultures non européennes. On en a beaucoup de traces chez les Ainus dans le Japon du Nord, ou bien chez des peuples sibériens du nord-est de la Sibérie, ou chez les Inuits dans l'Amérique de l'extrême nord, ou même en Europe, chez les Lapons, il y a des pratiques qui ne sont pas très différentes de celles des Inuits ou des Ainus, par exemple, pour honorer l'ours, un animal donc vénéré, respecté, craint. Ça explique que les chasseurs, par exemple, quand ils vont chasser l'ours, avant de partir à la chasse, chantent ou prient pour demander à l'ours le droit de le chasser. On a beaucoup de témoignages, jusqu'à des époques relativement récentes. Ça explique aussi un certain nombre de tabous, notamment sur le nom de l'ours dans certaines cultures. On ne doit pas prononcer le nom de l'ours, sinon il serait très mécontent, ne se laisserait pas chasser. C'est le cas, par exemple, chez les Slaves et chez les Germains. Ça explique pourquoi, d'ailleurs, dans les langues slaves et dans les langues germaniques, le nom de l'ours, encore aujourd'hui, n'appartient pas à la racine de la famille indo-européenne de l'ours, comme Pascal l'a dit, autour d'une racine arc, art, or, our, ursus en latin, arctos en grec, arctos en breton, Artémis, le roi Arthur sont là derrière, bien sûr. Non, il faut trouver autre chose. Dans les langues slaves, par exemple, le nom de l'ours, ça va être le voleur de miel, le maître du miel, Medvedev, le grand-père de la forêt, celui qui marche d'un pied léger, des périphrases de cette nature. Et chez les Germains, l'ours, ça n'est pas l'ours, c'est le brun, il ne faut pas dire son nom, celui qui a le pelage brun. Hein. Der Bär en allemand, c'est Der Braune, en fait. The Bär en anglais, c'est la même chose. Il ne faut pas dire le vrai nom de l'ours. Pour l'historien, évidemment, ce sont des témoignages extrêmement, extrêmement importants. Donc, un animal vénéré dans les sociétés païennes et qui l'est encore dans les sociétés chrétiennes du Moyen-Âge, et ce qui, évidemment, irrite les prélats, les théologiens, les clercs. L'Église, assez tôt, va partir en guerre contre ces traces de vénération de l'ours, contre ces cultes païens, même de l'ours, qui vont durer un certain temps, et il va falloir les éradiquer. Il y a dans les pratiques, par exemple, la chasse à l'ours, qui est la chasse noble et même royale par excellence pendant une bonne partie du Moyen-Âge, et c'est une chasse très sauvage, parce qu'elle se pratique à pied, et elle se termine par un corps à corps entre l'homme et l'animal. Et donc, entre l'homme et l'ours, il y a échange de souffle, échange de sang même, parfois. Pour l'Église médiévale, c'est effroyable. Et elle a cherché à éradiquer la chasse, l'Église, mais elle n'y est pas arrivée. Alors, elle a tenté d'inverser la hiérarchie des gibiers. Et là, elle y est parvenue. Les Romains, les Gaulois, les Germains n'aimaient pas du tout chasser le cerf, parce que le cerf, c'est un animal peureux qui fuit devant le chasseur, ça ne présente aucun intérêt. L'ours ou le sanglier, ce sont deux animaux courageux qui affrontent le chasseur, et à pied, et ça se termine donc par ce corps à corps dont je parlais. L'Église, progressivement, au Moyen-Âge, a réussi à faire du gibier royal par excellence, non plus l'ours, mais le cerf. Et à partir du XIIIe siècle, les rois, les princes, ne chassent plus l'ours, mais chassent plutôt le cerf, une chasse donc moins sauvage, ou bien pratique la fauconnerie, une chasse encore moins sauvage, puisque c'est l'oiseau qui chasse et pas le chasseur. Autre témoignage, faire un cadeau, quand on est un roi, faire un cadeau à un autre roi, le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire pour sa ménagerie pendant très longtemps, c'est de lui offrir un ours, et si possible un ours remarquable pour telle ou telle qualité. Ça dure encore après l'an 1000, au XIe siècle, au XIIe siècle, puis après ça disparaît, preuve que l'Église a réussi, là encore, à éliminer cette idée du cadeau royal attaché à l'ours. Il n'y a plus que le roi de Norvège, à partir du XIIIe siècle, qui offre des ours blancs, parce que ce sont des curiosas, en quelque sorte, pour les ménageries royales et princières. Et puis, surtout, il y a cette idée qui vient de loin, les textes antiques en parlent déjà beaucoup, notamment l'histoire naturelle de Pline, qui est des textes fondateurs de la culture occidentale, cette idée que l'ours mâle aime les jeunes filles, aime les jeunes femmes, les enlève et les viole, et ça donne naissance à des êtres qui sont mi-hommes, mi-ours. Ça pose des problèmes immenses pour l'Église. Est-ce qu'il faut baptiser de telles créatures? Les théologiens en débattent encore en plein XIIe siècle. Ils ont tendance à répondre si la mère est une femme, il faut baptiser l'enfant. En revanche, dans les cas moins fréquents, mais où un humain mâle s'est accouplé avec une ours femelle, là, il ne faut pas baptiser, l'enfant est plus animal qu'humain. Voilà de quoi débat, par exemple, la théologie et la scolastique médiévale. Donc, on a beaucoup de traces dans la littérature médiévale, encore en plein XIIIe siècle, d'histoires où une femme est enlevé et violé par un ours. Par exemple, un roman arthurien du début du XIIIe siècle, il s'appelle Ider, un roman moins connu que d'autres, mais un très beau roman, un très beau texte, anonyme. L'ours de la ménagerie du roi Arthur s'est évadé, il a défait sa chaîne, le voilà libre, et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de fuir vers la forêt et la véritable liberté, il fuit vers la tour des dames, la chambre des dames, où il y a la reine Guenièvre et ses suivantes. C'est ça qui l'intéresse, c'est pas la liberté, c'est d'aller voir les dames. Et là, il les menace d'enlèvement et de viol, mais un jeune chevalier très courageux qui s'appelle Ider s'empare de l'ours et le jette par la fenêtre de ce donjon et sauve ainsi les dames, notamment la reine Guenièvre, qui nourrit pour lui un sentiment particulier. Bref, beaucoup d'histoires et des traces de culture sainte dans certaines parties de l'Europe, en pleine terre chrétienne, assez tôt dans le Haut Moyen-Âge et jusqu'à assez tard, au milieu du Moyen-Âge. Donc pour l'Église, il faut absolument mettre fin à ces traces de culture sainte et à toutes ces croyances et ces pratiques. Et pour ce faire, l'Église du Moyen-Âge utilise différentes stratégies. La première, c'est de tuer le plus grand nombre d'ours. Ça commence avant même le règne de Charlemagne, quand des missionnaires accompagnent les soldats vers la Germanie profonde pour conquérir des territoires et évangéliser. Il faut lutter contre les cultes païens, culte des sources, culte des arbres, culte des rochers, culte des ours. On tue énormément d'ours. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est assez efficace. L'ours diminue en nombre avant et après l'an 1000 en Europe. Et si on pouvait faire des cartes, on n'a pas de chiffres évidemment, mais si on fait des cartes attestant la présence ou l'absence de l'ours sur tel ou tel territoire, on s'aperçoit que pour la France, par exemple, l'ours qui est présent partout en Gaule, quand Jules César arrive en Gaule, il a déjà beaucoup reculé vers l'an 1000. On ne le trouve plus à l'ouest d'une ligne qui irait de Strasbourg à Bayonne, par exemple, ou à peu près. Il est de l'autre côté, à l'est, mais plus à l'ouest. Et puis, plus on va avancer dans le temps, plus l'ours va reculer et devenir, lui qui était un animal de tous les terroirs, un animal de la montagne. Donc ça, c'est la première stratégie. Tuer l'ours, tout simplement. Deuxième stratégie, et ça, c'est le rôle des contes et des récits hagiographiques, montrer que le saint, c'est-à-dire l'homme de Dieu, l'homme envoyé par Dieu, le saint est plus fort que la plus forte des bêtes sauvages, plus fort que l'ours. C'est à nouveau des histoires qui nous amusent aujourd'hui, mais qui sont très importantes pour l'Église. Par exemple, un saint part en voyage, une mule porte ses bagages, arrive un ours qui mange la mule, le saint oblige l'ours à porter ses bagages à la place de la mule. C'est l'histoire de saint Corbinien, par exemple, qui est le grand saint patron de la Bavière. On le voit fréquemment, cette histoire mise en image en Bavière, peinte ou sculptée. Ou bien un saint est en train de labourer, comme toujours au Moyen-Âge, ce sont des bœufs qui tirent la charrue. Arrive un ours qui mange un des deux bœufs, le saint oblige l'ours à prendre la place du bœuf qu'il a dévoré. L'histoire la plus célèbre, c'est peut-être celle de saint Gall, un saint irlandais parti évangéliser dans la France de l'Est, dans le nord de la Suisse. Un jour où il se reposait dans une forêt, arrive un ours qui le menace. Le saint parle plus fort que l'ours, puis finalement en fait son compagnon. L'ours devient une sorte d'animal familier, voire domestique. Et quand saint Gall commence à construire un ermitage, l'ours, et on a énormément d'images qui nous montrent cela, l'aide en portant du bois, en portant des pierres, cet ermitage qui va devenir la future abbaye de Saint-Gall, la plus riche de toute la chrétienté. Et à Saint-Gall, encore aujourd'hui, on voit l'ours représenté absolument partout, partout, partout. Troisième stratégie, donc tuer l'ours, dompter l'ours, ça c'est le saint. Troisième stratégie, diaboliser l'ours. Alors, on en fait une créature du diable, une des vedettes du bestiaire du diable. On raconte beaucoup d'histoires, notamment à l'époque romane, où le diable se déguise en ours pour venir tourmenter les hommes, spécialement les moines et les moniales. Ou bien, on associe l'ours à un grand nombre de vices et de péchés quand se met en place la liste des sept péchés capitaux. Assez tard, au XIIe siècle, elle commence à se stabiliser. Il y a un bestiaire des sept péchés capitaux. L'ours est la vedette. Il est associé à quatre des sept péchés capitaux. La goinfrerie, la paresse, la luxure et la colère. Ça fait beaucoup. On lui épargne l'orgueil, l'avarice et l'envie. Mais le singe et le cochon, qui sont deux autres animaux associés à des péchés capitaux, ça n'est que trois. L'ours, c'est quatre. C'est vraiment la vedette. Donc, diaboliser l'ours. Quatrième stratégie, ridiculiser l'ours. Ça va être le rôle des montreurs d'animaux. En général, l'Église médiévale n'aime pas du tout les spectacles d'animaux. C'est presque de l'idolâtrie. C'est infâme. C'est un grand péché de transformer les bêtes en bêtes de cirque. Mais pour l'ours, elle va avoir une certaine tolérance. Donc, pendant assez longtemps, on aura des montreurs d'ours qui se déplacent de foire en foire et de marché en marché, avec des ours enchaînés qui font des tours, qui dansent, qui marchent sur les mains. On peut s'approcher, toucher l'ours, même les enfants peuvent venir toucher l'ours. Bref, cet animal si fort et si redoutable ne fait plus peur à personne. Et ça contribue, bien sûr, à le désacraliser grandement. Enfin, dernière stratégie, installer sur le trône symbolique de roi des animaux un autre animal. C'est ce que l'Église va finir par faire en choisissant le lion, parce que le lion était déjà le roi des animaux dans les traditions orientales et dans les traditions africaines. Il l'est parfois même dans les textes bibliques. Et peu à peu, il va prendre la place de l'ours dans tous les domaines. l'ours était plutôt le roi des animaux pour les traditions orales et le lion pour les traditions écrites, à commencer par la Bible. Or, pour l'Église, les écrits, ça se manipule et ça se contrôle beaucoup plus facilement que les traditions orales. Donc, elle a tout à gagner à remplacer l'ours par le lion, d'autant qu'il n'y a pas de lion indigène sur les terroirs européens, donc il n'y a pas danger de culte idolâtrique du lion. Et donc, entre l'époque de Charlemagne et celle de Saint-Louis, en gros, peu à peu, culturellement, le lion en Europe devient le roi des animaux à la place de l'ours. Pas mal de témoignages nous le prouvent. Dès le XIIe siècle, par exemple, dans le roman de Renard, qui est un magnifique laboratoire pour l'historien des animaux, dont les plus anciennes branches sont écrites vers la fin du XIIe siècle, le roi des animaux, c'est déjà le lion, ce n'est plus l'ours. Quelquefois, il est encore le vice-roi, mais pas le roi. Ou bien dans les armoiries apparaissent dans le courant du XIIe siècle, et il y a un bestiaire, presque la moitié des figures héraldiques au début sont des animaux, le plus fréquent, c'est le lion, ça n'est pas l'ours. Le lion est le roi du bestiaire du blason et va le rester jusqu'à l'époque moderne. Dans les ménageries princières, l'ours tend à disparaître, ce n'est plus un cadeau royal, ce n'est plus tellement intéressant d'avoir un ours dans sa ménagerie. Une ménagerie, c'est toujours un signe de pouvoir, donc il y a des ménageries royales, princières, épiscopales, municipales, abbatiales, et la composition est toujours intéressante, c'est un document pour l'histoire culturelle. Donc il faut s'intéresser à cette composition qu'on ne connaît pas toujours, bien sûr, mais on voit bien que l'ours sort des ménageries et est remplacé par des animaux un peu curieux, exotiques, qui étonnent. Cette ménagerie très particulière qui est l'Arche de Noé, c'est exactement la même chose dans les images. Nous avons des dizaines de milliers d'images de l'Arche de Noé depuis l'époque paléochrétienne jusqu'au livre pour enfants d'aujourd'hui. Eh bien, les imagiers, les artistes, évidemment, ont peu de place, donc ils ne peuvent pas mettre beaucoup d'animaux différents. Donc c'est très très intéressant d'étudier quels sont les animaux qui ont le droit d'entrer dans l'Arche de Noé. Comme le texte de la Bible ne prononce pas de nom d'espèce, tu feras entrer dans l'Arche deux de chaque espèce. Il n'y a pas de précision, donc les artistes sont assez libres et il n'y a jamais plus de 5, 6, 7, 8 espèces différentes. Donc les choix qu'ils sont faits sont des documents d'histoire culturelle. Et on voit bien qu'à partir du XIIIe siècle, il n'y a plus d'ours dans les arches de Noé. Il faut attendre justement le livre pour enfants pour qu'il fasse sa réapparition. Donc, différents témoignages de cette nature qui montrent que l'ours n'est plus non seulement le roi des animaux, ni un animal de culte, ni même une vedette du bestiaire. Il rentre dans le rang, en héraldique par exemple, par ordre de fréquence. Il est devancé par le lion dans le bestiaire héraldique, mais aussi par l'aigle, par le corbeau, par le sanglier, peut-être même par le coq. Donc il recule. C'est une bête qui ne fait plus peur, qui recule dans les mentalités et les sensibilités, qui recule aussi, comme je l'ai dit, du point de vue géographique. À la fin du Moyen-Âge, il n'y a plus d'ours en plaine en Europe. Dans la France de l'époque moderne, le dernier ours du Massif central disparaît au XVIIe siècle, dans les Vosges au XVIIIe siècle, dans le Jura au XIXe siècle, et dans les Alpes françaises, en tout cas, le dernier ours a été vu en 1920. Et dans les Pyrénées, vous connaissez le dossier actuel, 5-6 ours réintroduits venant de Slovénie, avec toutes les polémiques que vous savez, et dans lesquelles on m'a demandé plusieurs fois de prendre parti. Moi qui suis très lâche, jamais je n'ai pris parti. Il y a quand même, à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne, quelques reliquats de ces anciennes croyances, de ces anciens rôles symboliques de l'ours. Par exemple, aujourd'hui encore, et ça date de la fin du Moyen-Âge, 3 capitales européennes ont un ours dans leurs armoiries, Berlin, Berne et Madrid. mais dans les trois cas, c'est en raison d'un jeu de mots entre le nom de la ville et le nom de l'ours. Berne et Berlin, c'est en allemand, Der Bär, en allemand, c'est l'ours, donc des villes dont le nom commence par Bär, très naturellement, ont pris un ours comme emblème. À Berlin, on le voit un peu partout, et à Berne encore plus, avec la fameuse fosse aux ours, des ours vivants qui sont vraiment les totems de la ville de Berne, une des plus belles villes d'Europe, avec une fosse aux ours qui est documentée, on a des archives, depuis au moins la fin du XVe siècle, ne serait-ce que les dépenses pour nourrir les ours et les surveiller. Et puis, les histoires et les croyances perdurent jusqu'en plein XVIIe siècle. On a un témoignage pour l'époque du roi Henri IV et le début du règne de Louis XIII. Dans la vallée de la Maurienne, une histoire terrible. Une jeune bergère, donc dans les années 1600-1610, qui s'appelait Antoinette Culé, dans un village de la vallée de la Maurienne, était montée un jour avec ses moutons peut-être un peu plus haut que d'habitude, et elle n'est jamais redescendue au village le soir. On a retrouvé les moutons, ils étaient tous là, mais pas la bergère. Alors on a cru qu'elle avait fait une fugue, on l'a cherchée partout, elle avait 16 ans, on ne l'a pas retrouvée. On a fini par l'oublier quelque peu, les années ont passé, et 3 ou 4 ans plus tard, des bûcherons, qui eux aussi étaient montés assez haut pour couper du bois, en s'approchant d'un morceau de rocher gigantesque, ont entendu des cris et sont aperçus que c'était une caverne bouchée par un énorme roc qu'ils ont réussi à déplacer, et est sortie de la caverne une créature qui était une jeune fille en haillons, écorchée de partout, qui a raconté qu'elle avait été enlevée par un ours, qui en avait vu sa femme, sa compagne, il l'avait violée, elle avait accouché d'un être mi-homme, mi-ours, on est sous Henri IV, hein, et que le père ours, en voulant cajoler son enfant, avait fini par l'étouffer, ne sentant plus sa force, et que cet ours l'avait nourri, en avait fait véritablement sa compagne. On la redescend au village, elle raconte son histoire, personne ne la croit, on pense qu'elle a menti, qu'elle est partie avec un homme, et puis qu'elle a inventé tout cela. On la ramène chez ses parents, et le lendemain, pendant la nuit, un ours gigantesque descend des montagnes, fait du tintamarre dans tout le village, et réclame qu'on lui rende son épouse en hurlant. Il est chassé, il revient 3 nuits de suite, l'histoire était vraie, ce qui fait que les villageois ont fini par tuer cet ours épouvantable, le plus grand qu'on ait jamais vu dans la vallée de la Maurienne, naturellement. On est quand même intrigué. L'évêque de Saint-Jean de Maurienne et celui de Moutier en Tarentaise, la vallée d'à côté, demande à un prêtre du diocèse de raconter cette histoire qui est mise par écrit, qui est imprimée. On a gardé le récit encore aujourd'hui, imprimé à Chambéry en 1620. La jeune fille est envoyée très loin dans un couvent pour qu'on oublie cette histoire épouvantable. Et on a fini par y croire et il se peut que l'histoire était vraie. Donc, au début du XVIIe siècle, on pense encore dans certains coins d'Europe que l'ours mâle est attiré par les jeunes filles et par les jeunes femmes. Mérimée en a fait un texte au XIXe siècle qui est peut-être une des plus belles nouvelles de la littérature française, ça s'appelle Lochis, c'est du Mérimée tardif, 1867-68, c'est peut-être une histoire qu'il a d'abord prononcée oralement pour faire peur aux dames de la cour de Napoléon III à Saint-Cloud ou à Compiègne, mais il l'a mise par écrit. C'est un texte absolument magnifique. Ça se passe en Lituanie. Une jeune femme va se marier et la veille de son mariage, elle est enlevée par un ours qui l'emmène dans la forêt, mais qui la délivre assez tôt. 3 jours après, elle réapparaît. Le mariage peut avoir lieu. Elle ne dit pas grand-chose de ce qui s'est passé. Puis le couple attend un enfant. 9 mois plus tard, un bébé naît, qui a l'air normal, et puis en grandissant, ce bébé devient un peu curieux, un adolescent étrange et puis un adulte un peu étonnant, très taciturne, le comte Michel, l'héritier donc de ce couple, qui a un comportement bizarre que Mérimée décrit peu à peu. Pardon. C'est une nouvelle un peu fantastique. Le lecteur découvre ce que je vous raconte. On ne le devine pas au début, c'est peu à peu. Et ça finit extrêmement mal. La fin est absolument terrifiante. C'est un très, très beau texte qui raconte, au fond, ce qu'on trouvait déjà dans la mythologie grecque, dans les mythologies germano-scandinaves et dans les mythologies slaves. L'ours à l'époque moderne donc ne fait plus peur, mais il est encore présent dans l'imaginaire, dans les contes, dans les légendes, dans la toponymie, dans l'anthroponymie. Les zoologues ne l'aiment pas beaucoup. Buffon, par exemple, déteste l'ours. Il n'arrive pas à le faire entrer dans son classement, dans son histoire naturelle, au milieu du XVIIIe siècle. Et c'est fréquent chez Buffon, quand il n'arrive pas à classer un animal selon son classement à lui, pas celui de Linné, il déteste Linné, son ennemi personnel, il dit du mal de l'animal, et c'est notamment le cas du porc et de l'ours. Il a une phrase terrible à la fin du chapitre sur l'ours, hein, l'histoire naturelle de Buffon, c'est le texte le mieux écrit de toute la langue française, hein, c'est absolument admirable. Et la dernière phrase du chapitre sur l'ours, c'est quelque chose comme « Certes, cet animal ressemble beaucoup à l'être humain, mais cela ne lui donne aucune supériorité sur les autres animaux, bien au contraire. » Donc l'ours est mal aimé pendant longtemps des zoologues, on ne sait pas très bien où le classer, est-ce qu'il y a une espèce d'ours, est-ce que l'ours blanc c'est aussi un cousin de l'ours ou une espèce brun ou une espèce différente. Puis on commence à connaître des ours de continents éloignés, on ne sait pas trop quoi en faire et c'est un problème qui n'est pas complètement tranché aujourd'hui. L'ours prend sa revanche, et je termine par là, avec le dossier de l'ours en pluche, qui est une magnifique revanche pour l'ours brun. Et ce dossier est fascinant parce que l'ours en pluche fait son apparition non seulement la même année, le même mois, mais la même semaine de chaque côté de l'Atlantique, une semaine du mois de novembre 1902. On connaît en général l'histoire américaine, mais pas l'histoire allemande. Aux États-Unis, le président Theodore Roosevelt, qui est le grand président dans l'histoire des États-Unis, un personnage presque mythologique de son vivant même, Theodore Roosevelt est un grand chasseur, et à un moment où il faisait une tournée dans les États du Sud, il avait été bredouille 3 ou 4 jours de suite. Alors son entourage est très gêné, et capture un ourson, l'attache plus ou moins à un arbre, attire l'attention du président pour qu'il tire sur l'ourson et qu'il ait enfin du gibier. Mais naturellement, Theodore Roosevelt a épargné l'ourson, il n'allait pas tirer sur un petit animal. Et ça a fait beaucoup pour sa popularité, qui était déjà immense. Et un dessinateur de presse s'est empressé de caricaturer l'événement, d'autres l'ont recopié, ça a circulé un peu partout aux États-Unis. Et ça a donné l'idée à un marchand de jouets new-yorkais qui préparait des poupées en feutrine et chiffon pour les fêtes de fin d'année, d'en faire une en forme d'ours. Et il a même eu l'idée de donner à cette nouvelle figure, inconnue dans le jouet pour enfants, en plus en tout cas, et en feutrine, le nom du président des États-Unis, Theodore Teddy. C'est la naissance de Teddy Bear, donc au milieu du mois de novembre 1902. Immense succès pour les fêtes de fin d'année de ce jouet nouveau. Mais à Stuttgart, au même moment, une femme, Margaret Steiff, qui était handicapée, mais qui fabriquait également des jouets en forme d'animaux, elle, sur les conseils d'un de ses neveux qui revenait du zoo de Francfort, il lui a conseillé de faire un ours, ce qu'elle n'avait jamais fait. Elle a fait un ours en feutrine, laine et peluche. Et pour les fêtes de fin d'année en Allemagne, ça a eu également un grand succès. Mais le devenir des deux inventeurs, si je puis dire, a été inégal. Le pauvre New-Yorkais était dépassé par son succès. Il s'appelait Michtom et au bout de quelques mois, il a dû vendre son entreprise et d'autres ont pris le relais et l'ours en plus est devenu un jouet dont vous connaissez le succès. Mais chez les Steiff, chez Margaret Steiff, en revanche, on avait les reins plus solides et la firme Steiff existe encore. C'est le plus grand fabricant de jouets au monde. Ça n'est pas rien, plus d'un siècle plus tard. Donc le devenir n'est pas le même. Mais ce qui est certain, c'est que l'ours est devenu le jouet vedette pour l'enfant, spécialement pour l'enfant garçon, concurrençant la poupée. Le premier compagnon, au fond, que l'enfant a dans son berceau, et le premier qu'il domine, à qui il donne des ordres, à qui il fait faire toutes sortes de choses. Nous, la psychanalyse, naturellement, s'en est beaucoup mêlée, la pédagogie de l'enfance également. Et même si, après la Deuxième Guerre mondiale, dans le domaine de la pluche, l'ours a eu des concurrents. Moi, j'ai eu des ours en pluche dans les années 50. J'avais aussi lapin et peut-être quelques autres animaux, mais c'était encore la vedette. Puis après, il a eu des concurrents. Et puis, c'est retombé. Aujourd'hui, quand, au moment des fêtes de Noël, on fréquente un magasin de jouets en pluche ou le rayon des jouets en pluche dans un grand magasin, on s'aperçoit qu'il y a un bestiaire diversifié, mais les ours, c'est quand même la moitié des éléments de ce bestiaire. Ça reste la vedette. Donc, pour conclure, on peut souligner que l'ours n'est pas un animal comme les autres, en tout cas du point de vue culturel. Au paléolithique, c'est le seul qui partage la caverne de l'être humain. Et au XXe siècle, pendant longtemps, c'est le seul qui partage le berceau du jeune enfant ou même les terrains de jeu du jeune enfant. Ça lui donne un statut qui n'est pas celui des autres animaux et ça en fait une espèce de cousin ou de parent de l'être humain. Merci à tous.
Il reste quelques minutes pour ceux qui veulent poser des questions à M. Pastoureau. Moi, j'avais une première question. C'était sur la symbolique même de l'ours qu'on retrouve un peu aussi avec l'étoile polaire. C'est quand même le pivot aussi. C'est un animal qui est très ancré, qui est très lié à la Terre, à un axe.
C'est une histoire de la mythologie grecque. Zeus est tombé amoureux de la nymphe un peu mortelle sur les bords, Callisto. Son épouse Héra est tout à fait furieuse. Callisto accouche d'un enfant qui s'appelle Arcas. Et pour que Callisto et Arcas échappent à la colère d'Héra, Zeus les fait monter au ciel et les transforme en constellations. C'est la grande ours et la petite ours. Au Moyen-Âge, la plupart des auteurs, théologiens ou encyclopédistes, auteurs de bestiaires, etc., soulignent qu'il y a trois animaux qui ressemblent à l'être humain. L'ours, en raison de son aspect extérieur, il peut se tenir debout, saisir des outils, s'en servir, il nage, il saute, il danse, il grimpe. Bref, il ressemble extérieurement à l'être humain. Un auteur même explique que si on enlève un ours mort, sa peau, son cadavre et celui de l'humain sont absolument identiques. Le deuxième animal qui ressemble à l'être humain, c'est le cochon. Mais là, c'est un problème interne, pas externe. À l'intérieur, tout est pareil pour le système digestif, le système sexuel, les différents organes. D'ailleurs, dans les écoles de médecine, comme au Moyen-Âge, l'Église interdit de disséquer le corps humain. L'anatomie du corps humain s'enseigne en disséquant le cadavre de la truie et du verrat, avec l'idée que c'est tout pareil, ce que disait déjà la médecine grecque et la médecine arabe, et ce que confirme pleinement la médecine d'aujourd'hui. En effet, à l'intérieur, c'est tout pareil. C'est notre cousin le plus proche. C'est pour ça que la médecine aujourd'hui emprunte tellement aux cochons et pas aux singes, pour des greffes de peau, des greffes d'organes. La truie peut même être mère porteuse d'un embryon humain le temps d'une opération, etc. Donc, on le sait déjà. Et puis, ce qui est amusant, c'est que au Moyen-Âge, on dit qu'il y a un troisième animal qui ressemble à l'être humain, c'est le singe. Mais en fait, il est tellement diabolique qu'il fait semblant de lui ressembler alors qu'il ne lui ressemble pas du tout. Et on trouve le singe absolument horrible. Et alors, comme il y a l'idée que l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'idée que le singe ressemble à l'être humain, c'est absolument impensable. Et donc, il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que l'idée, non pas d'un cousinage, mais d'une certaine ressemblance, fasse sa réapparition. Puis ensuite, Darwin est arrivé avec son livre « L'origine des espèces » en 1859, ce qui a changé complètement les rapports entre les êtres vivants.
Le loup, est-ce que vous avez quelques mots à en dire ?
Du loup ?
Oui, le loup.
Oui, bien sûr.
Plus sur l'ours, mais je suis assez curieuse du loup, de sa représentation dans l'histoire. Et...
Je me contente de l'Europe, hein, parce que l'histoire des animaux, c'est de l'histoire sociale, en fait. La problématique relève des faits de société, donc... L'historien que je suis ne peut pas connaître toutes les sociétés de la planète, donc je me limite à ce que je connais. L'Europe occidentale, c'est déjà énorme dans la longue durée. Mais le loup en Europe n'a pas fait peur pendant assez longtemps. Plutôt, il y a une alternance de périodes où on a peur du loup et d'autres où on a moins peur du loup. Au Moyen-Âge, puisque je suis spécialiste du Moyen-Âge, il y a une période où on a un peu peur du loup, c'est le Haut Moyen-Âge. Et puis une période où on n'a plus du tout peur du loup, c'est le Moyen-Âge central, entre l'an 1000 et le 13e siècle. C'est la période prospère du Moyen-Âge. Hein. Tout va bien, expansion économique, expansion démographique, climat très favorable. Et donc, le loup ne s'approche pas des habitations. Le loup n'a pas faim parce qu'il trouve à manger ce qu'il lui faut. Plus personne n'a peur du loup. Et ça devient une bête dont on se moque. Dans le roman de Renard, par exemple, le loup, qui est la vedette avec le renard, c'est un personnage totalement ridicule. Et puis à la fin du Moyen-Âge, quand les choses vont beaucoup plus mal, toutes sortes de crises, d'abord climatiques, hein, c'est le plus important, donc économiques, famine, épidémie. Au XVe siècle, les loups entrent dans Paris. Tout le monde a faim, y compris les loups. On a de nouveau peur du loup et ça va durer très très longtemps. Ça va durer jusqu'au XIXe siècle. Donc la peur du loup, c'est surtout une peur des campagnes à l'époque moderne, de la fin du XVe jusqu'au début du XXe siècle. L'affaire de la bête du Gévaudan, par exemple, se passe sous Louis XV, hein, au XVIIIe siècle, dans les années 1760. C'est un bon témoignage. Ce n'est pas une histoire médiévale, la bête du Gévaudan. C'est une histoire du XVIIIe siècle. Et ce qui est fascinant, d'ailleurs, c'est qu'on est en Gévaudan, donc dans une région assez reculée du Massif central. Quand la bête attaque un après-midi en Gévaudan, le lendemain matin, toute l'Europe est au courant. C'est donc une circulation des nouvelles sous Louis XV qui est déjà considérable. Ça va très vite. Quand on veut aller vite, on sait aller vite sous l'Ancien Régime. Voilà, donc sur le loup, on a énormément écrit. C'est un animal vedette des contes, des fables, des traditions orales. Il invite à s'interroger sur ce que peut être, c'est une notion que j'aime bien, que j'emprunte à un professeur de zoologue, mais aussi anthropologue du Muséum d'histoire naturelle, François Poplin, avec qui j'ai longtemps travaillé. Il a dégagé la notion de bestiaire central dans chaque société, chaque culture. Quel est le bestiaire central des cultures européennes ? Alors, lui, il est spécialiste plutôt de l'Antiquité, mais moi, du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Et s'il fallait faire un bestiaire central, je mettrais une dizaine d'animaux. Les vedettes sont le corbeau qui écrase tout, l'ours, le loup, le sanglier, l'aigle, le cygne, donc des animaux indigènes en Europe. Il faudrait y ajouter le lion et le serpent-dragon, la frontière est floue pendant très longtemps, et peut-être le taureau. Mais il n'y aurait pas tellement de place dans ce bestiaire central pour le chien, le chat, le cheval. Il viendrait seulement dans un deuxième temps. Mais c'est une hypothèse. Pardon ? Le cerf, oui, je l'ai oublié, pardon. Oui, il faut les quatre animaux de la forêt. Le cerf, le sanglier, le loup et l'ours. Oui. Et puis trois oiseaux, l'aigle, le corbeau et le cygne. Mais donc tout ce que je vous ai raconté sur l'ours, je peux raconter exactement de la même façon pour le corbeau, un oiseau totalement vénéré par les sociétés antiques. C'est l'oiseau des dieux. C'est non seulement le roi des oiseaux, mais parfois le roi des animaux. Des cultes païens du corbeau. L'église médiévale qui part en guerre contre le corbeau, avec des histoires pas très différentes et des stratégies pas très différentes de ce que j'ai raconté. Notamment, on tue énormément de corbeaux. Ça se prolonge jusqu'à des dates très avancées. Hein. Quand j'étais enfant, dans les campagnes de la France de l'Ouest, on tuait encore des corbeaux, sans raison. Et puis, comme l'ours a pris sa revanche avec l'ours en peluche, le corbeau prend aujourd'hui sa revanche, une immense revanche, avec les tests sur l'intelligence animale. Le premier de la classe, c'est lui. Il est, depuis une trentaine d'années, présenté comme le plus intelligent de tous les animaux, avant les grands singes, ce que certains auteurs de l'Antiquité grecque et romaine disaient déjà, d'ailleurs.
Jamais personne ne s'intéressait aux insectes.
Aux insectes ? La notion d'insecte est assez récente. Hein. Dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, ce n'est pas une catégorie de la zoologie. L'insecte et l'entomologie qui va avec, ça apparaît fin 16e, début 17e siècle. Donc auparavant, on a la catégorie des vers, la vermine, où on met tous les petits animaux, donc ceux que nous appelons les insectes, mais aussi les mollusques, les batraciens, les petits rongeurs, la crevette, la mouche, la musaraigne, le ver de terre, tout ça c'est la même catégorie. Donc il n'y a pas un discours sur les insectes, mais il y a un discours sur l'abeille, évidemment, qui est toujours pris en bonne part, et sur d'autres insectes qui, eux, sont pris en mauvaise part. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on réfléchit sur la domestication du monde animal, beaucoup de controverses pour savoir si c'est le mouton ou le chien qui a été domestiqué en premier. Et pour arbitrer, certains pensent que c'est en fait l'abeille, l'animal domestique le plus ancien, mais elle n'est que semi-domestique. On est vers 12 000 ou 14 000 ans avant le temps présent, donc avant même que l'homme soit sédentaire.
Merci, monsieur Pastoureau, pour cette conférence.